France Culture.
Quentin l'a fait.
Dans le sud-ouest, la dermatose nodulaire contagieuse a fait exploser bien plus qu'une crise sanitaire, entre abattage total des troupeaux, vaccination ciblée, blocage d'autoroutes et fermes encerclées. Pour empêcher l'accès des vétérinaires, c'est désormais la manière dont l'État décide, impose et arbitre au nom de la filière qui se retrouve frontalement contestée. Alors comment cette séquence s'inscrit-elle dans l'histoire longue des mobilisations paysannes et que révèle-t-elle du nouveau rapport de force entre agriculteurs, syndicats, États et experts dans un climat de défiance héritée du Covid et des luttes autour des normes environnementales. Un invité ce soir pour y répondre, Edouard Lynch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à Lyon Lumière 2, spécialiste des zones rurales et du monde paysan français. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir et merci à Chantal Nouvello de permettre la connexion depuis Lyon.
On veut tout bloquer, on veut paralyser le pays complètement, on fait du nombre, on a des collègues là qui vont nous rejoindre d'ici peu.
Aujourd'hui, psychologiquement, on ne tient plus, on a peur, on a la trouille.
J'ai une pensée pour tous ces éleveurs qui ont vu leur cheptel abattu. J'en connais le drame intime que cela représente.
Donc on voit que l'épidémie ne s'arrête pas, donc pour nous, c'est pas satisfaisant hein, de sacrifier des élevages entiers pour une stratégie qui ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux anciens qui ont trimé? On leur dit tout ça, ça peut être balayé d'un jour, d'un revers de main, par une décision administrative et technocratique.
Comment analysez-vous, Edouard Lynch, cette crise, l'ensemble des mobilisations qui s'inscrivent dans le paysage français depuis plusieurs jours? Est-ce que c'est d'abord et avant tout, selon vous, une mobilisation contre l'État?
Oui, c'est une mobilisation contre l'État, hein, puisque on est clairement face à une décision prise par les autorités sanitaires pour tenter de juguler un épisode de contagion des bêtes. Hein. Donc, on est clairement effectivement dans une phase d'affrontement avec l'État.
Qu'est-ce qu'on reproche concrètement? Qu'est-ce que ces agriculteurs reprochent concrètement à l'État? C'est le fait d'intervenir directement, de prendre des décisions sanitaires sans les consulter. C'est, ou bien d'une manière plus profonde, de prendre des décisions qui seraient, selon eux, infondées.
Non, je pense que c'est la conjonction d'un certain nombre de facteurs. C'est pas la première fois que l'État intervient pour tenter de juguler des crises sanitaires. Hein. C'est une des traditions. Enfin, des politiques sont très anciennes hein, depuis les premières formes de vaccination des troupeaux à la fin du 19e siècle. Hein. Donc c'est pas du tout nouveau. Je pense que ça éclate dans un climat particulier. On a déjà eu des épisodes précédemment de ce type de contamination avec des politiques d'abattage. Voilà, je crois qu'aujourd'hui le contexte politique favorise hein, à la fois l'exaspération des éleveurs hein, qui sont, je dirais, chauffés à blanc depuis plusieurs années autour de discours qui viennent mettre en cause toute forme d'intervention de l'État. Il y a aussi des logiques politiques, hein, en tout cas syndicales, avec des stratégies qui permettent, enfin qui sont l'objet, qui ont l'occasion d'utiliser en fait cette crise pour peser et s'imposer dans le paysage syndical. Donc je crois qu'il y a eu une conjonction, il n'y a pas véritablement de changement. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a depuis plusieurs années une forme de défiance croissante vis-à-vis de l'État, en tout cas pour une partie des agriculteurs. Voilà, après les agriculteurs sont extrêmement habitués depuis des décennies hein, à ce que les vétérinaires, les directions des services vétérinaires interviennent dans les fermes, régulent. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas eu de changement de doctrine. C'est en ce sens-là, je pense qu'il faut insister sur la dimension conjoncturelle et surtout à la conjonction des facteurs de tension.
Mais donc vous n'identifiez pas là, Edouard Lynch, si je puis dire, une forme de défiance profonde ancrée de la part des agriculteurs pour la science vétérinaire en tant que telle?
Non, je pense que c'est excessif de dire ça. Voilà, les éleveurs, ils ont l'habitude de travailler avec avec la science vétérinaire qui est étroitement liée à la construction même de la filière, hein, de, que ce soit dans le processus de sélection, dans les processus de naissance. Donc, sans du tout être un spécialiste de ces questions-là, je vois pas en quoi tout d'un coup il y aurait cette méfiance-là. En revanche, que le contexte politique et des formes d'instrumentalisation cristallise effectivement les angoisses qui sont tout à fait compréhensibles, hein, face à la violence des stratégies d'éradication mises en œuvre. Ça, on peut le comprendre, mais je pense pas qu'il y a un changement structurel.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Daniel Carrier, éleveur dans le Gers. Il était interrogé par nos confrères de France Info.
Qu'en abattant les troupeaux, on va pas créer d'immunité sur les troupeaux. On tue la bête malade, à la rigueur, je veux bien. Bon, tant pis, c'est bête pour elle, mais au moins on laisse les autres vivre et s'adapter au virus. Si on abat toujours, le virus, ben, il a la belle vie. Hein. Les bêtes sont capables de se défendre, j'en suis persuadé. Là, ça va mieux parce que on a le vaccin qui va arriver. Ça m'inquiète moins, mais je vous dis, il y a un cas ici, je déclare pas. Je vais être hors la loi, mais tant pis. On est responsables, tous, chacun. On est assez grand pour savoir si on doit vacciner ou pas vacciner. Si on vaccine, on se couvre, donc il n'y a pas de souci. Celui qui ne veut pas vacciner, qui a la maladie chez lui, bon, ben, il a pris le risque, on abat, mais toujours obliger les gens, c'est moi, j'en peux plus, quoi.
Plusieurs choses frappent Edouard Lynch hein, dans ce témoignage. D'abord, évidemment, la dimension émotionnelle. Voir ces bêtes euthanasiées, c'est perdre une partie de sa propre vie, c'est perdre son travail, c'est se mettre en risque, c'est perdre des êtres, les bêtes en l'occurrence, que très souvent les agriculteurs aiment profondément. Comment intégrer cette dimension-là, l'émotion, au registre des mobilisations?
Oui, c'est une évidence, hein, et c'est vrai qu'on oublie effectivement que au-delà même de ces notions affectives, hein, les bêtes sont aussi issues d'un long processus de sélection, avec parfois des stratégies familiales de long terme. L'éradication d'un troupeau, ça signifie beaucoup plus qu'une perte économique qui s'indemnise d'ailleurs pas très bien ou pas totalement. Donc, je crois que là-dessus, il y a aucun doute, hein, sur l'impact que ça peut avoir. Mais là encore, j'aurais tendance à dire, on n'a pas inventé tout d'un coup cette stratégie d'éradication des troupeaux, d'abattage. On le sait, en tout cas, moi je suis pas du tout un spécialiste, hein, de cette maladie et de ces formes de propagation et des formes de lutte. Mais tout ce que je peux observer ou tout ce que je peux constater, c'est que il semble que la stratégie d'éradication totale soit étroitement liée à une logique économique qui est d'éviter de faire peser sur l'ensemble du cheptel français un risque de déclaration de suspect et du coup de freiner les importations, les exportations. Donc en fait c'est cette politique-là, elle est pensée par rapport à l'ensemble de la filière. Et quelque part, les agriculteurs qui voient leurs bêtes abattues massivement, le sont au nom d'un principe collectif qu'il faut sauver la filière, en tout cas la filière exportatrice. Alors après, ça peut poser tout un tas de questions sur cette organisation-là. Mais c'est dans ce but-là, et si cette stratégie-là, en tout cas ce que j'en ai compris, a été choisie, c'est pour justement pouvoir sécuriser les exportations. Je ne le cautionne pas, hein, mais je pense que c'est ça qui l'explique.
Est-il pertinent, selon vous, de comparer la crise présente, actuelle, la dermatose nodulaire contagieuse, qui n'est pas contagieuse justement pour l'être humain, avec la crise de la vache folle. La vache folle, elle, qui pouvait justement venir contaminer les êtres humains. Comment vous, en tant qu'historien, vous approchez la comparaison de ces deux crises-là?
Alors, je suis un historien et c'est encore une histoire qui est un peu trop proche pour moi. Moi, j'ai pas travaillé spécifiquement, hein, sur ces crises-là. En tout cas, ce qui me semble, de ce que j'ai pu lire, hein, c'est que globalement, et c'est vrai, il n'y a pas eu, hein, il me semble, au moment de la vache folle, de mobilisation aussi forte et de réaction aussi forte, sans doute parce que effectivement, comme vous l'avez dit, à l'époque, hein, il était absolument pas certain, on connaissait pas du tout la maladie et la question de la transmission à l'homme était, je dirais, beaucoup plus, enfin, une probabilité qui tétanisait en large partie et qui rendait finalement, qui légitimait des formes d'élevage. Mais il y a eu sans doute aussi beaucoup moins d'abattage parce qu'il y a eu des cas beaucoup moindres. C'est ça aussi le paradoxe. Là, ce qui est frappant, c'est qu'on est plutôt dans le cadre d'une crise entre guillemets. Je vais pas dire normal, mais qui s'est déjà produite. Hein. C'est pas la première fois que cette épidémie se produit. Hein. Je crois qu'il y en a eu il y a une dizaine d'années. Voilà, il y a déjà eu des mesures sanitaires. Donc pourquoi ça explose aujourd'hui, si je puis dire? Bah, ça explose aujourd'hui parce que voilà, sont passés un certain nombre d'événements. Qui touchent à la fois, effectivement, à des formes de défiance vis-à-vis des politiques sanitaires, de l'État, du Covid, hein, qui sont clairement animés ou alimenté par un certain nombre d'acteurs politiques ou d'acteurs idéologiques, je ne sais pas comment les qualifier. Et puis, il y a eu les épisodes plus récents de mobilisation en 2024 et 2025 autour des normes environnementales, voilà, autour de cette idée que l'État, une sorte d'État léviathan, écraserait la paysannerie par tout un ensemble de mesures. Et je pense que c'est la conjonction de ces phénomènes qui est le déclencheur. Et j'y ajouterais, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, une dynamique syndicale, c'est-à-dire voilà, la volonté de la coordination rurale d'instrumentaliser, hein, et de capitaliser sur la détresse des agriculteurs, sur leur désarroi, pour je dirais se détacher et prendre le dessus sur la FNSEA, qui est tiraillée, on le voit bien, entre d'un côté sa solidarité avec les agriculteurs. On voit il y a des jeunes agriculteurs qui sont proches de la FNSEA qui se mobilisent dans certains départements, la solidarité paysanne joue, mais d'un autre côté la FNSEA, elle est attachée aussi à la politique exportatrice portée par le gouvernement et portée par cette centrale syndicale, et donc elle suit aussi cette dynamique-là.
Alors je voudrais vous interroger cette fois-ci sur votre vrai travail d'historien. Merci. Edouard Lynch, les blocages de routes que l'on a vus régulièrement ces derniers jours un peu partout en France, qui représentent un moyen de mobilisation important pour les agricultrices, pour les agriculteurs, dans quelle histoire s'enracinent-ils? Comment naissent-ils plus exactement au début des années 50 à travers la mobilisation des viticulteurs du Midi?
Oui, des viticulteurs du Midi, tout à fait, hein, dans une logique clairement d'instrumentalisation médiatique, en fait, hein, barrer les routes, hein, c'est rendre des revendications visibles, attirer l'attention des médias et des pouvoirs publics, hein. Donc les viticulteurs ont barré la route des vacances en juillet 1953, et dans la foulée, hein, les producteurs de viande, déjà d'ailleurs du Sud-Ouest, hein, autour du comité de Guéret, ont aussi barré les routes du Sud-Ouest, ont tenté de paralyser l'économie du pays. Donc ça, c'est une première forme d'action et de mobilisation, hein, qui est très clairement liée à, je dirais, la mise en circulation de l'économie et de l'agriculture, hein, au décloisonnement, au rôle croissant des transports et des échanges. Donc les interrompre, c'est peser. Mmh. Et cette stratégie, hein, qui s'appuie aussi sur la mobilité physique des agriculteurs, hein, qui vont à partir des années 50 avoir des tracteurs, elle permet effectivement de se faire entendre, de peser sur les pouvoirs publics. Et j'ajouterais que on a, alors elle se maintient, hein, tout au long des années 60, 70, 80. Elle est relayée aussi par des formes plus enfin concomitantes, hein, les manifestations dans les villes, les destructions de produits agricoles. Mais j'ajouterais qu'aujourd'hui ces manifestations et ces blocages de routes, ils se justifient aussi par le nombre toujours plus faible d'agriculteurs. Et évidemment, organiser des organisations de masse, défiler, si on est 50 dans un département, ça fonctionne pas. Et donc, en utilisant, je dirais, leurs compétences, en tout cas leur matériel, et donc le fait que c'est bouger des tracteurs énormes ou des très grosses machines, c'est compliqué pour les forces de l'ordre. Du coup, c'est une façon, hein, voilà, avec 3-4 tracteurs, on peut bloquer une autoroute d'une façon assez importante. Donc il y a là aussi une dynamique pratique, hein, qui va expliquer qu'elle soit utilisée aujourd'hui.
Vous expliquez très bien que ces blocages de routes permettent notamment de venir persuader, convaincre les pouvoirs publics. Ce que ces blocages permettent également, c'est d'unifier les luttes professionnelles. Alors, on oublie souvent que le monde paysan, le monde agricole, c'est une diversité importante de métiers, de statuts. Or, ces mobilisations, ces blocages de route permettent dans le fond de créer du commun aussi entre les professions.
Oui, c'est très clair, hein, et d'ailleurs ça permet de comprendre parfois les aspects un peu, je vais pas dire confus, mais voilà, le mélange des genres ou le fait que les étiquettes syndicales, lorsqu'on est confronté à une situation de crise et de blocage, ont tendance à sauter. Et on l'a bien vu là dans ces opérations qui sont plus rares, hein, dans historiquement on en retrouve bien sûr, mais qui sont un petit peu différentes, celles des opérations qui se trouvent autour des fermes. Bah, il est évident que voilà, lorsque les forces de l'ordre sont annoncées, bah, ce sont les voisins qui viennent, ce sont les proches dans les ceux qu'on connaît en fait, qu'on croise dans les manifestations professionnelles, dans l'activité de tous les jours. Et donc là, il y a vraiment une solidarité du monde paysan qui joue et qui se défie des étiquettes.
Je reviens un instant, Edouard Lynch, sur cette défense des fermes que vous évoquez, parce qu'elle résonne en fait énormément avec la situation que l'on connaît actuellement. Vous prenez pour exemple les bouilleurs de cru et leur rapport aux contrôleurs fiscaux dans les années 30, 40, 50, 60, 70 même. Durant plusieurs décennies, il y a une confrontation entre ces deux populations au sein des fermes agricoles.
Oui, c'est un des exemples, hein, effectivement, que l'on peut trouver si on cherche des blocages de fermes. L'autre, on y reviendra peut-être, ce sont les ventes saisies. Mais effectivement, les bouilleurs de cru sont intéressants parce que ils prennent position effectivement au cœur de la ferme, puisque les inspecteurs des contributions viennent vérifier, hein, l'absence ou la présence d'alcool distillé. Donc ils rentrent dans les fermes, donc ils viennent d'une certaine façon violer l'intimité familiale, l'intimité professionnelle, et du coup ces intrusions du fisc, hein, qui ont d'ailleurs une longue histoire, parce que avant les bouilleurs de cru, il y avait d'autres types d'intrusions fiscales, sont un élément très fort dans ce qu'on appelle le répertoire d'action collective des agriculteurs, donc dans cette volonté de faire front et de repousser l'adversaire, en l'occurrence l'État fiscal. Et ça, je dirais, ça marche toujours, c'est vraiment un point de continuité très intéressant. Parfois d'ailleurs au nom d'un certain nombre de motifs qu'on retrouve dans la bouche des agriculteurs que j'ai entendus, hein, c'est-à-dire, mais après tout, on est maître chez nous, on prend le risque, voilà, c'est à nous de décider. Voilà, donc cette forme finalement de mise à distance de l'autorité étatique. Alors en plus, si elle s'invite à la ferme, c'est encore plus difficile, hein, et quelques malheureux contributeurs des impôts à qui on a fait des misères pourraient en témoigner.
Et là, évidemment, le parallèle avec l'actualité est fort lorsque l'on entend que les agriculteurs sont maîtres dans leur ferme. Le rapport entre l'État fiscal avec les bouilleurs de cru et l'État sanitaire avec les éleveurs qui sont confrontés aujourd'hui à la dermatose nodulaire contagieuse, est-ce que ce parallèle-là a du sens quand on entendait ce témoignage tout à l'heure de Daniel Carrier qui disait, au fond, la décision chez moi de tuer une bête, de tuer une part de mon élevage, je peux la prendre seule, je n'ai pas besoin de l'État pour cela.
Oui, alors c'est bien sûr, on peut pas comparer, hein, parce que la situation est évidemment bien plus dramatique que de frauder sur quelques litres de gnôle ou que d'abattre un troupeau tout entier, hein. On peut évidemment pas faire la comparaison, mais je pense que ça renvoie effectivement à une identité professionnelle, hein, qui s'est structurée dans le temps long, hein. Voilà, le propriétaire, l'exploitant, il est sur sa ferme, hein. C'est sa propriété, c'est sa possession, il en est le maître. Et du coup, même si l'État est de plus en plus présent dans la vie quotidienne des exploitations, hein, voilà, il y a quand même toujours, hein, cette forme de défiance, et je pense qu'elle a joué à plein aussi, hein, on l'a vu dans la crise de 2024 contre les agents de l'Agence de l'Environnement, voilà, avec leurs prospectus, avec leurs enquêtes. Donc voilà, il y a cette idée qu'on ne doit pas venir chez moi, hein. On pourrait renvoyer, et là je renvoie aux travaux de Jean-Claude Caron sur la révolte fiscale de 1841, ça nous met loin de l'été rouge, hein, voilà, où la rumeur publique disait que les inspecteurs venaient fouiller pour surveiller les femmes, compter les femmes enceintes et vérifier le petit linge dans les coffres. Donc il y a cette forme de violation de l'intimité qui est en toile de fond, même si on va pas évidemment comparer ça avec le travail des vétérinaires qui s'efforcent de d'éradiquer une maladie.
Que pensait Edouard Lynch du chemin retour cette fois-ci de ces agriculteurs qui se mobilisent en direction de l'État contre l'État lorsqu'ils vont attaquer, je mets des guillemets autour du terme, mais attaquer des préfectures, des ministères, des bâtiments publics. Est-ce que là aussi c'est un motif à part entière dans le répertoire de mobilisation des agriculteurs ?
Oui, à partir du moment où, au début du XXe siècle, la profession agricole s'est construite dans un face à face, mais en tout cas dans une relation de négociation avec l'État pour obtenir un certain nombre d'aides face aux crises, pour se développer, etc. L'État est son principal interlocuteur, et donc les représentations symboliques ou réelles de l'État, les préfectures, les perceptions, sont des lieux où s'exercent les pressions. On le voit en 1907 au moment de la crise des viticulteurs, on le voit en 1933 lorsque la préfecture de Chartres est envahie par les manifestations du parti agraire, et on le voit de façon quasi systématique à partir des années 60, notamment à partir du moment où l'épisode de la sous-préfecture de Morlaix, et ça continue encore aujourd'hui, puisqu'on voit qu'on va symboliquement déposer du lisier, des vieux pneus devant les sous-préfectures. Donc cet État dont on est à la fois tributaire, partenaire, parce que il faut voir que l'État depuis la Ve République a été, je dirais, un partenaire engagé aux côtés de l'agriculture, mais en même temps un partenaire sur lequel on exerce constamment des pressions pour obtenir davantage.
Je voudrais que l'on aborde au regard de l'histoire, toujours Edouard Lynch, le rapport de ces agriculteurs à la violence à travers une archive de 1976. Retour sur une fusillade lors d'une manifestation de viticulteurs encore à Montredon.
Le drame de cet après-midi faisait suite aux incidents de la nuit dernière à Narbonne, où des commandos de viticulteurs étaient passés à l'action dans toute la ville et ses environs. Les interventions des forces de l'ordre s'y étaient succédées jusqu'à l'aube, sans pouvoir empêcher la mise à sac des perceptions de la ville et des localités voisines, le plasticage d'un important relais de télévision, l'attaque de diverses installations routières et ferroviaires, comme le péage de l'autoroute A9, les gares de Narbonne et de Lézignan. Cause profonde de tout cela, la crise prolongée de la viticulture, bien sûr, et puis le problème plus récent de l'importation des vins italiens. Ce sont des représailles, ont dit les responsables des comités d'action. C'était surtout le début d'un engrenage avec la poursuite de l'action aujourd'hui et le drame de Montredon-Corbière. Les responsables des comités viticoles ont lancé ce soir un appel au calme et demandé aux manifestants de rentrer chez eux. Et ils ont annoncé pour demain une journée de deuil.
C'est l'importation des vins italiens qui était alors en cause, Edouard Lynch. Comment est-ce que vous abordez ce rapport à la violence des agriculteurs ? Il est complexe, on imagine qu'il est éminemment protéiforme.
Oui, il est complexe, il est protéiforme, il est aussi soumis à une forme, je veux dire, d'instrumentalisation ou d'usage politique, puisque dans ce rapport de force qui se construit face à l'État, les paysans revendiquent, et ce dès les années 30, autour notamment du mouvement d'orgériste, d'une forme de légitimité, d'exercer la violence parce que ils se considèrent comme, des Français de premier plan, essentiels à la survie du pays, et on retrouvera systématiquement, y compris dans les années 60 et 70, ce jeu entre à la fois la négociation, des relations étroites avec les pouvoirs publics, et en même temps cet usage de la violence, dans les manifestations. Alors le cas de Montredon est évidemment un petit peu particulier, mais il témoigne aussi de quelque chose, je pense, qui peut rapprocher de la situation d'aujourd'hui, qui est aussi de comprendre que l'usage de la violence et surtout la radicalisation de la violence est aussi parfois une stratégie de courants minoritaires au sein de la profession qui veulent, aussi prendre des positions politiques, enfin qui veulent du coup prendre l'avantage. C'est-à-dire qu'on va utiliser davantage la violence pour se distinguer d'organisations plus traditionnelles, en tout cas d'organisations syndicales qui, elles, sont plus modérées. Et dans le cadre, par exemple, de la viticulture, ce qu'on appelle les comités d'action viticole se sont séparés des syndicats viticoles qui existaient et qui étaient considérés, entre guillemets, comme finalement trop mous. Et la manière dont aujourd'hui la violence est dans les discours, dans les mises en scène, dans les pendaisons, de pantins, etc., qui représentent des agents de l'État. On voit très bien là comment la coordination rurale joue sur cette fibre violente. Voilà, durcit son discours. On l'a entendu, peut parler de guerre. Voilà, elle brandit cette menace. C'est une façon évidemment de donner du poids à sa revendication et d'apparaître aux yeux de l'ensemble des agriculteurs comme ceux qui s'engagent le plus loin dans la lutte, avec aussi peut-être des relents de virilisme, parce que une partie aussi de ces mouvements autour de la coordination rurale ont des liens avec l'extrême droite et des formes d'engagement politique dans lesquelles la violence est légitime, en tout cas elle est pas légitime, mais elle est
justifiée,
excusez-moi, et valorisée même, surtout.
Merci beaucoup Edouard Lynch, je rappelle donc que vous êtes historien d'abord et avant tout professeur d'histoire contemporaine à Lyon Lumière 2, spécialiste des zones rurales et du monde paysan français. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir. Merci encore à Chantal Nouvello d'avoir permis la connexion depuis Lyon, et merci à celles et ceux qui ont imaginé et pensé cette émission. À mes côtés, Rodi Eken, Bruno Barada, Audrey Carme à la réalisation, François Richer.